France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Vous connaissez ses livres, bien sûr, ses opinions aussi, il les a souvent exprimées. Et là, il tourne en rond dans son confinement du Maine, dans le nord de l'Amérique, en regardant le président Trump à la télévision. Parfois, il s'en désespère aussi souvent. Douglas Kennedy est avec nous ce soir. Il imagine aussi une Amérique qui a montré ses failles béantes et va peut-être être enfin contrainte à changer. À 18h45, le virus sur la carte en Irlande ce soir, Irlande du Nord et République d'Irlande. Deux salles, deux ambiances. 18h50, la suite du journal sonore d'Amine depuis l'Algérie. Il nous l'envoie depuis sa ville de Sidi Belabès, depuis son téléphone portable aussi, et grâce à Caroline Gillet. 18h55, Jean-Marc Four et le monde d'après. Jean-Marc qui se penche sur une phrase trop vite oubliée dans le discours d'Emmanuel Macron hier, celle sur l'effacement de la dette africaine. Si vous donnez sur cours, nous sommes votre fenêtre sur le monde. Bonsoir.
France Inter.
Bonsoir Douglas Kennedy.
Bonsoir, c'est midi 26.
Ah bah oui, bonjour alors.
Des États-Unis.
Ah bah c'est vrai, bonjour.
Des États-Unis.
C'est vrai, bon appétit.
Et, je suis dans ma voiture parce que j'ai quitté chez moi, je vis dans une villa, je vole de la mer et j'ai quitté mon village très tôt ce matin pour faire des courses, comme tout le monde, parce qu'il y a des files d'attente partout. Et tout le monde porte un masque. La réalité d'un monde fermé.
Et y compris d'ailleurs dans cet endroit où vous êtes, dans le Maine, qui est au fond un endroit, j'allais dire presque isolé du pays, dans son mode de vie et sa vision de l'Amérique aussi. Est-ce qu'on dit rattrapé par le chaos ambiant ou pas?
La vérité ici, en fait, le Maine, c'est un très grand espace. En fait, c'est presque 600 km par 300 avec 1 300 000 habitants. Donc, c'est assez vide. En même temps, on a une gouverneure, une femme, Madame Mills, qui est très progressiste, très directe, très correcte. Et honnêtement, en fait, on peut vivre ici, mais tous les cafés, tous les restaurants sont fermés, en fait. On peut se balader, toutes les plages sont fermées, tous les parcs nationaux aussi, et de l'État. Mais on a l'espace. J'ai quitté New York il y a 30 jours avec ma fille qui vit là-bas, Amélie et son petit ami. Et je leur ai dit, honnêtement, il faut partir tout de suite. Et le résultat, en fait, comme M. Trump, je suis New Yorkais, c'est ma vie natale. Et maintenant, il y a presque 1000, en fait, 1500 cas de corona là-bas. Mm-hmm. Et aussi, en fait, le disgrâce de moment, et il y a beaucoup de disgrâce de moment aux États-Unis, c'est le fait que des infirmières en New York utilisent des sacs poubelles plastiques pour se protéger. Mm-hmm. Et ça, c'est New York aujourd'hui. Et c'est incroyable. Quand j'ai vu Trump hier soir, et j'ai une règle maintenant. En fait, je regarde le journal une fois, pas par jour, une fois, et peut-être 15 minutes, c'est suffisant. Parce que autrement, c'est comme une roue de hamster dans la tête. Mais quand j'ai vu Trump hier soir, qui a dit, en fait, j'ai pensé, mon Dieu, c'est Mussolini, en fait. Je suis, en fait, le personnage autoritaire ici. C'était una duce, una voce. Mais ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. En même temps, avec des gouverneurs comme Cuomo, comme nous sommes en Californie, comme Mills, qui franchement sont extraordinaires au milieu de cette crise.
Mais est-ce que vous avez le sentiment justement que il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays, et c'est le seul verre à moitié plein de ce chaos dans lequel nous sommes tous, et vous êtes aussi en ce moment aux États-Unis. Les gouverneurs ont repris leur place, ont pris une vraie place. On l'a vu, le gouverneur Cuomo à New York, effectivement, vous nous avez cité celle qui dirige chez vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que au fond, la place que n'occupe pas Donald Trump a été prise, et prise évidemment de meilleure manière.
Tout à fait. C'est difficile d'imaginer, en fait, si Obama était chef d'État. En fait, ce sera un trajet complètement différent. La vérité, en fait, et j'ai dit ça, la position des États-Unis, c'est un de mes thèmes constants dans mon écriture. on est à la fin de l'Empire. On est un peu comme le Royaume-Uni en 1918, après la Première Guerre mondiale. C'est le chute de notre empire. Mm-hmm. Et maintenant, on a notre Néron, l'Empire Néron, et ça c'est Trump. Et la vérité, ce n'est pas comme il est franchement en fait débile, il est au-delà de débile. Et de plus en plus aussi, parce qu'il y a une guerre culturelle immense ici, qui existe depuis 40 ans. Mais en fait, il y a deux Amériques et on déteste d'autres. Et de plus en plus, c'est les gouverneurs qui ont dit, Monsieur le Président, vous pensez que vous allez ouvrir le pays dans 3 semaines? Pas du tout. Mm-hmm. C'est nous qui vont décider.
Mais on vous...
Et,
pardon, allez-y. Non, excusez-moi, je reprends ce que vous disiez sur la guerre culturelle immense, effectivement, dont vous parliez, qui existe dans ce pays depuis plus de 40 ans, les fractures qui existent entre ces deux Amériques qui ont été probablement encore plus creusées par la présidence Trump. Est-ce que ce virus maintient ces fractures là où elles sont? Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a désormais des frontières qui peuvent se faire entre ces deux mondes, parce que face au virus, il y a beaucoup de... On est finalement tous plus ou moins égaux, alors c'est pas tout à fait le cas chez vous d'ailleurs, mais on est plus ou moins égaux devant ce virus, quelle que soit la frontière, comme vous dites, à laquelle on appartient.
Pour moi, en fait, la chose la plus passionnante au milieu de ça, depuis Reagan, on a eu une trajet économiquement, en fait, féroce ici. Mmh. En fait, les gens, en fait, contre l'idée de l'État, et contre, en fait, franchement, en fait, sur le New Deal de Franklin Roosevelt après la Grande Dépression économique. Mm-hmm. Et ça, c'était en fait Milton Friedman. Ça, c'était en fait beaucoup d'économistes, en fait, du doigt à les néocons. Et de plus en plus, c'était Wall Street qui a conquis, en fait, les États-Unis. La classe moyenne a été détruite depuis 40 ans. La classe populaire aussi. Mais, grâce à cette guerre culturelle, et c'est extraordinaire, qui vote pour le Parti républicain, la plupart du temps, c'est la classe populaire. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que le Parti républicain a créé cette idée. Il y a des Amériques. Mm-hmm. Et, en fait, il y a des snobs, des intellectuels, en fait, des gens de côte l'Est et l'Ouest, trop éduqués, pas des vrais Américains, contre des armes, contre des valeurs chrétiennes. Franchement, en fait, qui veut renforcer en fait un État laïque, mm-hmm. mais aussi où on accepte les homosexuels, mm-hmm. on accepte les minorités, etc. Pas des vrais Américains. Mm-hmm. Et fréquemment, en fait, avec Bush, en fait, les deux Bush, avec Reagan et surtout avec Trump, en fait, la classe populaire a voté pour ce type. Mm-hmm. La vérité maintenant, et tout est explosé, en fait, il n'y a pas une infrastructure ici. Mm-hmm. La santé publique est une catastrophe. Mm-hmm. Et honnêtement, en fait, tous les jours, en fait, j'ai une conversation avec des copains, nos copines ici. Et il y a beaucoup d'Américains qui pensent, on est jeunes. Et on comprend que c'est une tragédie totale. Est-ce qu'il y aura un grand changement après, en fait, après le virus? Je ne sais pas.
Alors, on verra.
Je ne sais pas.
On verra, on en discutera dans un instant. Douglas Kennedy, je m'arrête une seconde. Vous dites les classes populaires, effectivement, qui ont switché, qui se sont mis dans le camp, là, en l'occurrence, de Donald Trump. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que les classes populaires se rendent compte que leur intérêt est ailleurs? Est-ce que ce basculement, selon vous, peut avoir lieu après ce virus ou pas?
On verra. J'espère. Je ne sais pas si M. Biden est le candidat idéal. Mm-hmm. Et maintenant, aujourd'hui, c'est par hasard, une femme en fait l'a accusé d'une agression sexuelle. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose. Mm-hmm. Quel timing. Est-ce qu'on a besoin d'une Franklin Roosevelt maintenant? Mmh. On a Joe Biden. il n'est pas mon candidat du choix, mais l'alternative, c'est Trump. et on n'a pas de choix maintenant. La vérité, s'il y a une vérité dans cette situation, il y aura, j'ai lu un article dans le New York hier soir, et c'était glauque, mm-hmm. parce que une dépression économique va arriver. Et aussi, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de copains, en fait, copines, artistes, musiciens du jazz, à New York, déjà à Los Angeles. Et franchement, en fait, leur vie, on a été détruit, mais il y a des millions d'histoires comme ça. Maintenant, la montagne de dettes va augmenter. Oui. Et honnêtement, 4 semaines, et l'économie globale, c'est dans une chute. C'est plus que romanesque. Oui, en fait, c'est un roman de Philip K. Dick.
J'ai pas entendu. Un moment de, pardon.
C'est comme un roman de Philip K. Dick.
Ok, ok.
Qui a écrit, en fait, des romans. Des dystopies américaines pendant les années 50. En fait.
Oui, j'allais vous demander si vous relisiez Les raisins de la colère de Steinbeck, parce que fond, on est un peu dans ce schéma, ça peut marcher aussi. Vous allez rester avec nous, Douglas Kennedy, si vous le voulez bien. Il faudrait qu'on rejoigne Grégory Phillips, qui est le correspondant de France Inter aux États-Unis, pour qu'il nous mette dans, vous l'avez cité un peu tout à l'heure, dans l'ambiance de ce qui se passe en ce moment dans ce pays, et notamment le dernier briefing de Donald Trump dont vous parliez tout à l'heure. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne, bonjour Douglas.
Qui a été édifiant en fait, en termes d'attaque, de bras de fer. Une situation extrêmement tendue qui dit quand même, Grégory, un homme qui désormais manque terriblement d'alliés dans sa manière de gérer ce virus.
Oui, vous savez, ces briefings à la Maison-Blanche sont désormais quotidiens, c'est tous les soirs à 17h, et il y a d'ailleurs un signe, c'est que CNN par exemple et MSNBC ne les diffusent plus, ou alors que partiellement, parce qu'ils considèrent que on a là de la propagande politique et électorale. Et c'est vrai qu'hier soir, on a vraiment assisté à un briefing hors du commun, avec un Donald Trump en roue libre totalement. Ça a duré 2h30, et pendant 2h30, il a attaqué les quelques journalistes. Vous savez que dans la briefing room de la Maison Blanche, il y a maintenant aussi des consignes de distanciation sociale, et donc il y a vraiment quelques journalistes qui peuvent interroger le président. Et il leur a tapé dessus à bras raccourcis quand, par exemple, la presse lui demandait mais pourquoi avoir tardé à réagir, pourquoi avoir minimisé, notamment pendant tout le mois de février, les risques d'épidémie. Quand vous parliez de ce virus comme d'une simple grippe qui allait disparaître très rapidement, et pourquoi ne pas avoir agi. Et là, Trump les a littéralement engueulés en diffusant même sur les écrans de cette salle des briefings un clip de promotion, d'autopromotion, certains diront de propagande, pour montrer tout ce que son administration a fait depuis le début de l'épidémie. Donc on voit un Donald Trump vraiment énervé, et qui, en tout cas, dans ces moments-là, utilise ses adresses à la nation comme s'il était dans un meeting politique. On sait évidemment qu'on est en campagne.
Mais même Fox, par exemple, ne peut plus le défendre en ce moment, Donald Trump, ou est-ce que Fox, s'il n'en reste qu'un, ce sera lui, continue à le défendre?
Alors, Fox et Trump sont un peu en désamour en ce moment. Et Trump, maintenant, vante très régulièrement les mérites, entre guillemets, d'une autre chaîne qui s'appelle OAN, qui est une chaîne ultra, ultra conservatrice et encore assez confidentielle, il faut bien le dire, mais qui a accès à la Maison Blanche et à ses conférences de presse de Trump. Et de plus en plus souvent, Trump tape aussi sur Fox News au profit d'OAN qui milite ouvertement pour le président.
Grégory, on parlait à l'instant avec Douglas Kennedy du virage peut-être que peuvent prendre les États-Unis, du fait simplement en tout cas qu'on est à un moment charnière de cette présidence-là. Est-ce que vous avez le sentiment, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles là il est dans l'agacement, même au-delà même de la défensive, est-ce que vous avez le sentiment qu'il perd le fil de la narrative finalement Donald Trump, ce qu'il doit détester?
Un petit peu, mais enfin, on va voir ce que Douglas Kennedy en pense, mais je pense que c'est même au-delà de Trump. De quoi on s'aperçoit avec cette pandémie, c'est que ce pays, la première puissance économique mondiale, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que il y a une pandémie comme ça, vous avez 30 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance santé, vous avez 80 millions d'Américains qui sont mal assurés, vous avez en 3 semaines un travailleur sur 10 qui va pointer au chômage, 17 millions d'Américains qui demandent des allocations chômage, et on sait qu'elles sont extrêmement limitées et dans le temps et dans l'argent qui va leur être versé. Donc en fait, cette pandémie, elle montre certes des dysfonctionnements de l'administration Trump, avec un retard à l'allumage et puis un président fantasque dont on pensait encore hier qu'il allait virer son principal conseiller scientifique. Vous voyez, on en est quand même là, le docteur Fauci. Exactement. Et au-delà de ça, on a quand même un pays qui ne sait pas faire face à ça, qui s'aperçoit que son système de santé est nul. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, qu'il n'y a pas de protection sociale, que vous pouvez perdre votre job comme ça en une minute. Et voilà, c'est ce que l'Amérique est en train de réaliser, je pense, aujourd'hui.
Douglas Kennedy, comme le dit Grégory, ça marche pas. L'Amérique en ce moment, c'est pas la première fois qu'on le constate au fil des crises. Celle-ci, pour ça, est probablement différente. On n'a jamais vu 17 millions de personnes réclamer des droits au chômage d'un coup. On n'a pas vu les courbes monter à ce point-là dans l'histoire récente américaine.
Non, pas du tout, pas du tout. En fait, la dernière fois, c'était en 1949. Et ça, c'était le début du grand changement qui a duré, franchement, en fait, presque 20 ans, en fait, avec Theodore Roosevelt. La défense ici, et maintenant, en fait, ça, c'était le but, en fait, de Reagan et ses conseillers et le reste, en fait. Créer une économie du 19e siècle avec un aspect comme Greg l'a dit, en fait, c'est dans une société. On a de l'argent ici aux États-Unis où franchement on est pris. Et maintenant, en fait, la question pour moi, pourquoi en fait 30-40% de la population pense qu'il est pas mal maintenant? Ça va continuer après un mois, après 2 mois. Et aussi, de plus en plus, c'est bizarre, en fait, partout, en fait, le gouvernement fédéral a décidé que, en fait, des boutiques, des armes doivent rester ouvertes. C'est un service essentiel. Ça, c'est très américain. Ici, dans le Maine, en fait, des dispensaires pour le shit, pour marijuana, des services essentiels, mais dans le reste du pays, c'est des boutiques, des armes. Et honnêtement, en fait, le pays est si divisé. Et aussi, en fait, quelque chose d'extraordinaire. Regardez comme, en fait, les néo-chrétiennes qui ont un pouvoir immense, surtout dans le sud et le Midwest, même si Trump, il a eu en fait des aventures avec des stars du porno. Même si il y a des femmes qui ont dit une agression sexuelle, parce que Trump a son vice-président est très fondamentaliste, parce que Trump a dit tout le temps en fait, je suis contre l'avortement, je suis contre la séparation entre l'Église et l'État. Tous les chrétiens, en fait, votent pour Trump. En fait, Franklin Graham, le fils de Billy Graham.
Mais ça, Douglas Kennedy, c'est la base, et c'est la base incompressible, au fond, de Donald Trump. Il l'aura toujours. Après, c'est sur les côtés que peut-être les choses changent. Vous l'avez dit vous-même, il y a des choses qui sont très américaines. Nous, dans ce débat en ce moment, on est en train de s'interroger sur un après qui serait différent. Est-ce que l'économie doit repartir de la même manière? Ce qu'on entend chez vous, et même du gouverneur Cuomo, c'est un discours qui ressemble à celui qu'on entendait après le 11 septembre, au fond. On va s'en sortir, on sortira de ça, we will bounce back, let's go shopping, enfin, remettre...
Mais ça c'est très américain.
Voilà.
Ça c'est comme le foot américain, tout le temps, oui. Quelqu'un, franchement, un grand écrivain anglais, J.B. Priest, a dit, aux États-Unis, il n'a pas l'idée de la tragédie. En fait, c'est simplement quelque chose ne marche pas. Et on va trouver une solution. En fait, ça, c'est un aspect de l'âme américaine. En fait, il n'a pas de tragédie. Et on va tout surmonter, en fait.
Et du coup, celle-ci passera. Et du coup, mais celle-ci de tragédie aux yeux des Américains, aux yeux de beaucoup d'Américains, finalement, passera comme les autres, en fait, de toute façon. J'aimerais bien qu'on retrouve Grégory. Vous restez évidemment avec nous, Douglas Kennedy, parce que tout à l'heure, Douglas Kennedy nous a dit on avait besoin de Roosevelt, on a Joe Biden. Bon. Est-ce que Biden profite quand même de la faiblesse de Donald Trump dont vous parliez à l'instant, Grégory, parce qu'on a l'impression d'une absence totale d'un candidat démocrate qui a peut-être un coup à jouer là, mais qui est au fond de sa cave et qui finalement est totalement inaudible.
Alors, totalement inaudible depuis son basement du Delaware où il est confiné et d'où il fait des conférences de presse quotidiennes en vidéo. Un peu moins inaudible depuis 24 ou 48 heures parce que Bernie Sanders, assez rapidement, vous savez, le sénateur socialiste du Vermont l'a officiellement soutenu. Donc ça, c'est un bon point pour Biden.
Mais il l'a fait pour ça, non, Grégory ? Il l'a fait pour ça. On est dans un moment particulier. Il faut qu'il lui fait la courte échelle. Exactement comme Obama qui vient de donner son soutien aujourd'hui même, c'est forcément pas un hasard.
Et Obama, il y a 20 minutes, qui effectivement, dans une vidéo assez longue, apporte officiellement son soutien à Joe Biden, son ancien vice-président, et qui dit « je vais faire la campagne avec lui, on a besoin d'un homme d'État de sa trempe, notamment quand on voit la crise actuelle ». Donc là, il y a ces deux bons points pour Joe Biden, qui vient d'un seul coup de rassembler quasiment tout le parti démocrate et même les indépendants comme Bernie Sanders. Donc on va voir si ça lui profite, mais en dehors de ça, Biden est totalement inaudible. Il n'y a plus de campagne, les primaires sont reportées. On ne sait même pas si la convention démocrate décalée à fin août pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Mais ça veut dire qu'il donne pas de solution de sortie, Grégory. Par exemple, il n'y a pas. Je ferais à sa place, à la place de Trump.
Sauf erreur de ma part, il y a trois jours dans le New York Times, une tribune disant voilà ce que je ferais si j'étais président des États-Unis pour faire face à ce virus. Mais la voix de Biden est encore, en tout cas aujourd'hui, face à l'ampleur de la catastrophe qui est en train de se jouer, assez inaudible. On va voir si, au fur et à mesure de la réouverture, peut-être de la Californie, peut-être de New York de manière progressive, on va voir si la campagne va pouvoir redémarrer et si Biden va pouvoir s'imposer. Mais c'est vrai que il a peu de tribunes médiatiques en ce moment, contrairement à Trump qui parle tous les jours depuis la Maison Blanche, même si on l'a dit tout à l'heure, certaines chaînes décident de ne plus diffuser.
Pas de tribune, Grégory. Dernière chose, pas de tribune médiatique parce qu'il est tout seul dans son basement, comme vous dites, ou parce que l'omniprésence, au fond, à la fois de Trump, mais aussi du gouverneur Cuomo et d'autres, et de ce virus, fait que on ne vient pas le chercher, on n'a pas envie de savoir, au fond, ce que le candidat Biden a à dire.
C'est un peu ça. Cuomo jure qu'il n'a aucune ambition nationale, en tout cas pour novembre 2020, le gouverneur démocrate de New York. Mais s'il y a une figure qui émerge en ce moment, c'est bien lui. Ses briefings quotidiens à 11h du matin éclipsent quasiment ceux de Trump à 17h. La parole de Cuomo est écoutée par tout le monde. Son ton rassurant, avec pas mal de compassion et d'émotion, parle. Le gouverneur de Californie, Newsom est aussi extrêmement présent. Ce sont eux les démocrates qu'on entend en ce moment et pas le candidat bientôt officiel du parti.
Douglas Kennedy, cette absence, est-ce que vous avez le sentiment que les démocrates ne sont pas là au rendez-vous ou le sont-ils, le seront-ils ? Vous avez une forme de déception là-dessus ? Est-ce que vous attendez de voir ? Quel est votre sentiment ?
Le problème, et franchement, en fait, on a parlé de ça, en fait, dans cet instant-là, et aussi dans la narration américaine. On a besoin d'un moment d'une crise, l'idée de l'espoir. L'espoir, c'est l'essentiel. Et le truc, en fait, comme j'ai dit, en fait, c'est l'espoir de gangster. Complètement. L'espoir de gangster narcissique. Biden, honnêtement, en fait, pour moi, c'est un vieux monsieur. Je parle avec mes enfants qui ont la vingtaine. Et ils vont voter pour Biden. Ils ne sont pas inspirés par Biden. Et on a besoin, en fait, quelqu'un qui peut dire, en fait, oui, en fait, il y a, en fait, l'aube aux États-Unis. Ça, c'était le truc avec Reagan. Même si, en fait, j'ai pensé que Reagan était un con total. C'était contre moi. Contre, en fait, mais contre, oui, contre, en fait, ses politiques. ses relations publiques avec les peuples américains étaient géniales. Parce que oui, c'est le matin aux États-Unis avec moi. Et on a besoin d'un message maintenant d'un candidat.
Et c'est pour ça.
Et on n'a pas de message du candidat.
Et on a un vieux
monsieur, et pour les 4 dernières semaines, il était franchement dans son huis clos chez lui dans le Delaware. Et maintenant, en fait, franchement, comme tout le monde, j'ai de la peur.
Ouais. Vous avez toujours peur donc de ce qui peut se passer au mois de novembre si toutefois il y a l'élection. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sorti, que Obama est sorti tout seul du bois, qu'il n'a jamais été aussi politique, y compris dans ses tweets, que ces derniers mois. C'est quand même un peu triste de se dire qu'il faut aller chercher Barack Obama parce que on n'a rien sous la main pour enchanter l'Amérique à un moment où, dans ce moment charnière précisément, ce serait tellement tellement facile en face de Donald Trump.
Tout à fait, tout à fait. Et la différence, comme j'ai dit au début de cette conversation, en fait, si Obama était dans la Maison Blanche, en fait, la situation sera plus calme. En fait, Obama, ce n'est pas, il a un message, mais aussi c'était un technocrate, en fait, humaniste, et quelqu'un qui va trouver une solution. Et le truc maintenant, et ça c'est la vérité, je vais faire une petite digression. En fait, la vie quotidienne me manque. Et tout le monde, en fait, pense la même chose. En fait, plaisirs simples d'être dans un café. En fait, Paris me manque. En fait, c'est impossible de voyager en France maintenant.
Mais vous ne reconnaîtriez pas Paris, vous savez, Douglas Kennedy en ce moment.
Oui, non, c'est impossible. Quand j'ai dit récemment à un copain ici, j'ai deux passeports, j'ai un passeport irlandais, donc je peux voyager en Irlande et puis en France. Mais un passeport américain, en fait, c'est interdit de tout le monde, parce que oui, on est le hot zone du virus maintenant. Mais ça, c'est le truc, en fait, quand, en fait, tout se calme, en fait. La catastrophe humaine, franchement, en fait, des histoires personnelles, en fait, sera tragique, en fait. Les commissions gâchées, en fait, des carrières gâchées, c'est absolument extraordinaire. Et oui, aux États-Unis, on a quelqu'un qui peut dire, franchement, voici l'espoir. Et aussi, voici un trajet on peut suivre. Et Biden, ce n'est pas cette personne, et Trump. Honnêtement, quand je commence de penser que, mon Dieu, George W. Bush, très bon saut, Montesquieu, comparé à Trump, en fait, ça c'est pathétique.
Merci beaucoup Douglas Kennedy, merci vraiment mille fois. On vous souhaite un bon confinement dans le Maine. Je rappelle quand même que votre prochain ouvrage s'appelle Isabelle l'après-midi, c'est publié chez Belfond, qui doit sortir en mai ou en juin. J'espère qu'on aura l'occasion justement d'aller le chercher dans une vraie librairie et d'y aller à pied avec du monde autour de nous, c'est pas encore gagné. Merci beaucoup Douglas Kennedy, merci mille fois, merci à Grégory Philips aussi.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Et la suite ce soir, c'est une épingle sur l'Irlande. Dans Le Virus sur la carte, deux Irlandes, deux ambiances entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Le journal sonore dans une ville du monde, c'est celui d'Amine qui est toujours à Sidi Belabès et qui vous prend par la main. Dans l'autre, il a son téléphone qui l'enregistre. Le monde d'après, c'est Jean-Marc Four avec cette dette de l'Afrique que le président Macron veut effacer. Est-ce que c'est un signe que ce virus nous fait au moins comprendre l'enjeu de ce continent? En attendant, tiens, passons par Philadelphie. Son Little, Hey Rose.
There's a deep brass band in the park today. Though low notes speak what my mouth can't say. Can I read you every letter, turn you every page? Can I hold you till these dark dreams fade? Hey, Rose, your soul is a picture, but your body is a frame. But the frame is exquisite. Ohio, can I drive you to
Heroes, c'est sur France Inter. Le virus sur la carte met son épingle ce soir sur l'Irlande. Vous n'avez pas oublié l'épisode irlandais épique pendant les négociations sur le Brexit. La crainte de voir réapparaître une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Eh bien, revoilà le problème en même temps que le virus. Bonsoir Emeline Vin.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Emeline, à l'heure du coronavirus, cette frontière continue de poser problème et elle sépare deux stratégies bien différentes, deux Irlandes, deux ambiances chez vous.
Et oui, la République d'Irlande a mis en place les premières mesures de confinement partiel à l'époque, le 12 mars, il y a plus d'un mois. Depuis le début, Dublin suit les recommandations de l'OMS émises sur le modèle sud-coréen. Un confinement à minima, mais un dépistage massif de la population. C'est pas tout à fait réussi. Finalement, nous sommes passés en confinement total il y a un peu plus de deux semaines. Mais le gouvernement maintient son objectif de tester 10 000 personnes par jour le plus vite possible. Au nord, pendant un moment, ça a été tout le contraire. Pour rappel, Fabienne, le Royaume-Uni a d'abord adopté la stratégie de l'immunité collective. Pendant près d'une semaine, alors que Dublin avait fermé toutes ses écoles et ses universités et que la vie ralentissait, la première ministre nord-irlandaise a refusé de faire de même. Finalement, elle s'est alignée sur l'Écosse et le Pays de Galles après que ces deux régions ont décrété la fermeture des établissements scolaires. Et puis, Belfast a suivi quand Londres a décrété le confinement le 24 mars, en partie d'ailleurs sur pression du Premier ministre irlandais, Leo Varadkar.
Mais alors, toute l'île est confinée, Emeline, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne quand même.
Eh bien non, en effet. Un exemple, la durée du confinement. Si vous présentez des symptômes suspects, les médecins britanniques, côté nord, vous demanderont de vous placer en quarantaine pendant une semaine, 7 jours. Mais si vous vivez côté irlandais, et c'est parfois à quelques mètres de la ville britannique la plus proche, vous devrez vous isoler pendant 2 semaines. Le double. De même, les indemnités chômage ne sont pas tout à fait équivalentes. Alors ce sont de petites choses, mais pour les 30 000 travailleurs frontaliers, cela amène une certaine confusion. Il y a aussi la question du dépistage. On teste autant que possible en République, même si les laboratoires ont du mal à suivre. Au Nord et au Royaume-Uni, seules les personnes hospitalisées et le personnel soignant subissent un prélèvement.
Et alors Emeline, si toutes ces questions se posent sur le confinement, ça veut dire qu'elles se posent aussi, elles se reposeront aussi au moment du déconfinement?
Eh bien oui, alors au Nord, c'est l'éternel débat entre unionistes loyalistes, indépendantistes républicains, débat qui régit la politique nord-irlandaise depuis bientôt 30 ans et qui en fatigue certains. Qui doit-on suivre? Le voisin irlandais, plus proche géographiquement, ou la mère patrie britannique? Le docteur Gabriel Scali, un médecin nord-irlandais, expert en santé publique et très respecté ici, estime que l'île d'Irlande a une chance incroyable de lutter contre le virus. Elle a une faible population et de par son insularité et la baisse du trafic aérien, elle peut plus facilement contrôler la diffusion du virus. Mais selon Gabriel Scali, cette chance est gâchée par la divergence des stratégies. À court terme, difficile de susciter l'adhésion pleine et entière de la population aux mesures décidées. Mais à moyen terme, vous l'avez dit Fabienne, comment fait-on pour déconfiner? Est-ce qu'on peut déconfiner en décalé? Est-ce qu'on peut redémarrer une économie sans que l'autre ne soit encore réveillé alors qu'elles sont intrinsèquement liées? Il y a 2 semaines, une réunion intergouvernementale s'est tenue entre les deux Irlandes pour tenter d'harmoniser la réponse au Covid-19, sans résultat. D'ailleurs, Dublin et Belfast ont tenté de s'entendre pour commander des masques et des surblouses en Chine pour finalement continuer de s'approvisionner chacune de leur côté.
Quel exemple, Emeline Vin depuis Dublin, merci beaucoup, merci vraiment. Et comme chaque soir, le tour du monde est aussi sonore grâce au journal de bord collectif et sonore de foule continentale que nous donne, que nous confie Caroline Gillet. On a quitté Amine hier dans sa ville de Sidi Bel Abbès chez ses parents. Amine est aussi, il est surtout un jeune militant du Hirak, ce mouvement populaire et pacifique qui a fait défiler l'Algérie dans la rue chaque vendredi depuis plus d'un an maintenant. Amine du coup nous emmène dans les rues de sa ville, Sidi Bel Abbès. Il s'est enregistré avec son portable comme d'habitude. Nous sommes du 25 mars au 6 avril.
Je sors pour faire des courses de première nécessité, bien sûr. Et voilà un peu le bruit de l'ambiance. Il y a des voitures. Il y a toujours quelques taxieurs qui sont devant, qui roulent. C'est pas vide à 100%, mais c'est quasi vide. Hier, c'était une journée assez tourmentée. Parce que bon, depuis un an, le mouvement de Hirak et de contestation générale en Algérie existe. Ce mouvement avait décidé d'un commun accord de faire une trêve pendant cette pandémie. Et le gouvernement provoque toujours. Hier, il a jugé un militant qui devait sortir aujourd'hui pour 6 mois supplémentaires de prison. Il a été jugé sans présence de ses avocats, sans sa présence lui-même. Voilà ce qui amène la toile Facebook, Twitter, Instagram à se rebeller. Et à côté, oui, c'est bien de noter que la plupart des opérations de désinfection des quartiers, des immeubles et des voies publiques se fait par des gens du Hirak uniquement. Salut, c'est toujours Amine de Sidi Belabès. C'est le deuxième jour de couvre-feu. De 19h jusqu'à 7h du matin, l'État a instauré un couvre-feu. Comme si que le corona ne circule que pendant la nuit. On comprend pas toujours. Pour réduire les regroupements, on a réduit les heures de sortie. Du coup, ça fait plus de monde dehors en un moment. C'est logique dans un pays où la cellule de crise sanitaire est gérée principalement par des militaires et des administrateurs qui ne prennent pas en considération les conseils des scientifiques et des virologues et des médecins. Du coup, voilà. Et je sais pas si vous arrivez à entendre ce qui se passe autour. Dans le quartier, il y a des gens qui jouent au foot. Il y a un match de foot, 5 contre 5. Il y a des gens qui circulent. Il y a d'autres villes où le confinement est passé de 15h jusqu'à 7h du matin. Les villes les plus touchées par le virus. Mais en dehors des moments de couvre-feu, la circulation est autorisée même entre les villes. Et voilà, je vous laisse un peu entendre l'ambiance des rues de Sidi Belabès, 45 minutes avant le couvre-feu. Presque tout le monde est dehors, comme à la normale, sauf que les cafés sont fermés et les restaurants sont fermés. Sinon, le reste des magasins reste ouvert.
Merci vraiment à Amine pour les bruits de sa ville. On va le retrouver demain suite aux arrestations. Il a décidé pour un temps de quitter Sidi Belabès. Vous retrouvez évidemment tous les liens vers les autres journaux sonores sur la page de l'émission du 18-20 et puis sur la page aussi de Foule Continentale.
Fabienne Saintès, le 18-20.
Le monde d'après et Jean-Marc Four comme désormais tous les jours pendant cette crise du coronavirus. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Jean-Marc, peut-être que l'aspect passé le plus inaperçu de l'intervention d'Emmanuel Macron hier, et pourtant c'est peut-être l'un des plus importants en tout cas à vos yeux, le président français propose une annulation de la dette des pays pauvres d'Afrique. Et si on se décidait enfin à aider l'Afrique, c'est votre monde d'après.
Nous devons aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus en annulant massivement leurs dettes. Voilà la formule employée hier soir par Emmanuel Macron. Que cette formule se traduise en actes, en effet, alors oui, il y aura bien eu un tournant majeur lié au virus. Les pays africains ont vu leurs dettes doubler en 10 ans pour atteindre aujourd'hui 365 milliards de dollars, un gouffre. Ils consacrent annuellement plus d'argent à rembourser cette dette qu'à investir dans leur système de santé. Annuler purement et simplement cette dette, l'idée a été avancée en fait la semaine dernière par le président sénégalais Macky Sall, relayée avant-hier par le pape François. Lors de son homélie pascale, Emmanuel Macron l'a fait sienne. Le FMI, la Banque mondiale, le G7, le groupe des pays les plus riches, n'en sont pas encore tout à fait là. Ils proposent plus classiquement aujourd'hui d'accroître leur aide ou bien de suspendre la dette en question, au moins pour 6 mois, peut-être pour 1 ou 2 ans. 76 pays seraient concernés, essentiellement en Afrique. C'est un premier pas, mais suspension, ça veut dire simplement report, rééchelonnement, pas annulation, donc on n'en est pas encore à renverser la table.
Mais alors c'est quoi l'intérêt de renverser la table et d'annuler la dette ?
Je vais prendre une comparaison, c'est un peu comme la question des migrants. Si l'économie africaine est assez forte pour créer des emplois et dessiner un avenir meilleur, les candidats au départ et à l'émigration vers les pays du Nord diminueront d'autant. Bon, eh ben, si le système de santé africain parvient à résister au virus, le risque d'un rebond épidémique, d'une deuxième vague qui revienne en Europe, diminuera d'autant. D'où l'intérêt d'effacer la dette pour permettre que l'argent dégagé serve à équiper les hôpitaux et les systèmes de santé en Afrique. Et c'est possible parce que les pays africains sont proactifs, en fait. Pour la plupart, ils ont réagi jusqu'à présent plus rapidement que nous. En plus, comme la population africaine est jeune, 20 ans en moyenne, elle résistera peut-être mieux au virus qui frappe d'abord les personnes âgées. Donc l'effort sanitaire nécessaire n'exigera peut-être pas autant de moyens qu'en Europe. Annuler la dette fait donc sens, au moins par intérêt bien compris, pour éviter que la tragédie nous revienne en boomerang.
Et donc ça va se faire ou pas, Jean-Marc ?
En fait, c'est pas gagné, pour au moins deux raisons. La première, c'est l'égoïsme à courte vue. Autrement dit, dès que l'épidémie aura reflué en Europe pour aller potentiellement faire des ravages en Afrique, la tentation sera grande d'oublier les promesses d'aujourd'hui, de renouer avec les vieux clichés confortables, fatalistes sur l'Afrique de tous les maux, du sida, de la famine, d'Ebola, du paludisme, en y ajoutant juste à la liste coronavirus. La deuxième raison, c'est que rien ne se fera sans la Chine. Les créanciers chinois, publics ou privés, détiennent désormais à eux seuls 40% de la dette africaine. En 20 ans, la Chine est devenue de loin le premier créancier du continent, une stratégie qui permet aux entreprises chinoises de multiplier les contrats sur le sol africain. Donc Pékin acceptera peut-être un report de la dette, mais une annulation ? Improbable. Donc le risque est là. Faute de moyens, le système de santé africain peut exploser en vol. Le continent compte 40 fois moins de médecins que l'Europe. Et la suite peut ressembler en chaîne à instabilité politique, exode économique, recrudescence du virus, rebond épidémique en Europe. Le bon sens, y compris, j'y insiste, dans notre propre intérêt, c'est de rompre ce cercle vicieux en aidant massivement l'Afrique. Mais le bon sens a beaucoup manqué dans le monde d'avant.
Jean-Marc Fauré, le monde d'après. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain. On reste ensemble, bien sûr, juste après ça.